Guerre et paix. Première partie, chapitre 5, scène 4. Son parrain Vilarski, qu'il reconnut à la voix, reparut. À ses questions réitérées sur la fermeté de sa décision, il répondit
« Oui, oui, je consens !»
Et, la figure rayonnante, il suivit son conducteur en avançant sa large et forte poitrine, entièrement découverte, sur laquelle Vilarski tenait un glaive nu, et en marchant à pas inégaux et timides, le pied gauche chaussé de la pantoufle maçonnique. Ils traversèrent ainsi des corridors, tournant tantôt à droite, tantôt à gauche, et arrivèrent enfin aux portes de la loge. Vilarski toussa. On répondit par le bruit du maillet, et la porte s'ouvrit devant eux. Une voix de basse lui demanda, ses yeux étaient toujours bandés, qui il était, d'où il venait et où il était né. Puis on l'emmena plus loin, en lui parlant tout le temps, par allégorie, des difficultés de son voyage, de l'amitié sainte, du grand architecte de l'univers et du courage nécessaire dans les dangers et les travaux. Il remarqua qu'on lui donnait différentes appellations, tels que « celui qui cherche »,« celui qui souffre », »,« celui qui demande ». Et à chacune d'elles, les glaives et les maillots résonnaient d'une manière différente. Pendant qu'on le menait ainsi, il y eut un moment de confusion parmi ses guides. Il les entendit se disputer à voix basse, et l'un d'eux insistait pour qu'on le fît passer sur un certain tapis. On posa ensuite sa main droite sur un objet qu'il ne pouvait voir, et de sa main gauche, on lui fit appliquer du même côté un compas sur le sein, en l'obligeant à répéter, après un autre, le serment d'obéissance aux lois de l'ordre. Puis on éteignit les bougies, on alluma l'esprit de vin, ainsi que Pierre le devina à l'odeur, et on lui annonça qu'on allait lui donner la petite lumière. On lui enleva le bandeau, et il aperçut devant lui, comme dans un rêve, faiblement éclairé par la flamme bleuâtre, quelques hommes portant un tablier pareil à celui de son compagnon, debout devant lui et dirigeant sur sa poitrine des glaives tirés de leur fourreau. L'un d'eux avait une chemise ensanglantée. Pierre, à cette vue, se pencha en avant comme s'il désirait être transpercé. Mais les glaives se relevèrent et on lui remit le bandeau.
« Maintenant, on va te donner la grande lumière, »
dit une voix. On ralluma les bougies, on lui ôta le bandeau, et un chœur de plus de 10 voix entonna « Sic transit gloria mundi ». Après s'être remis de sa première impression, Pierre vit autour d'une grande table couverte de noir 12 frères, habillés comme les précédents. Il en connaissait quelques-uns pour les avoir rencontrés dans le monde. Celui qui présidait était un jeune homme inconnu, portant au cou une croix différente de celle des autres. À sa droite, l'abbé italien que nous avons vu à la soirée de Mademoiselle Scherer. Un haut dignitaire de Pétersbourg et un Suisse qui avait été gouverneur chez les Kouraguines en faisaient partie. Tous écoutaient dans un silence solennel le vénérable, qui tenait en main le maillet. Sur la paroi du mur brillait une étoile flamboyante. L'un des bouts de la table était couvert d'un petit tapis représentant divers attributs, et à l'autre bout s'élevait une sorte d'autel sur lequel était l'évangile et un crâne. Autour de la table étaient placés 7 grands chandeliers, comme ceux qu'on voit dans les églises. Pierre fut conduit par 2 frères devant l'autel. On lui plaça les pieds en équerre et on lui intima l'ordre de s'étendre de tout son long, comme s'il déposait sa personne au pied du temple.
« Qu'on lui donne la truelle, »
dit un des frères.
« C'est inutile, »
répliqua un autre. Pierre, ahuri, regarda autour de lui de ses yeux de myope et se demanda avec une certaine hésitation où il était. Si l'on ne se moquait pas de lui, et si plus tard, il n'aurait pas honte de se souvenir. Mais son doute ne tarda pas à se dissiper devant les figures sérieuses de ceux qui l'entouraient. Il se dit qu'il ne pouvait plus reculer, et se pénétrant de nouveau d'un esprit de soumission, humble et attendri, il se jeta par terre devant les portes du temple. Au bout de quelques instants, on lui ordonna de se lever, on lui passa un tablier de cuir blanc, pareil à ceux des autres frères, et on lui remit une truelle et trois paires de gants. Le vénérable lui expliqua alors qu'il devait garder immaculée la blancheur de ce tablier, représentant la force et la pureté. La truelle était pour lui servir à déraciner de son cœur les vices et à ramener au bien avec charité le cœur du prochain. Il devait conserver la première paire de gants sans en connaître la signification et porter la seconde dans leur réunion. La troisième était pour une main de femme.
Elle est destinée, cher frère, à être offerte par vous à la clandestine que vous respecterez par-dessus toutes les autres. Ce don sera un gage pour elle de la pureté de votre cœur. Veillez seulement, cher frère, à ce qu'il ne gante pas des mains indignes.
Au moment où le vénérable prononça ces paroles, Pierre crut remarquer qu'il se troublait, et lui-même, regardant autour de lui d'un air inquiet, rougit jusqu'aux larmes, comme rougissent les enfants. Il s'ensuivit un silence contraint que rompit à l'instant un des frères. Ce frère amena Pierre devant le tapis et lui lut, dans un cahier, l'explication des différents symboles qui y étaient figurés. Le soleil, la lune, le maillet, le plomb, la truelle, le cube de pierre de taille, la colonne, les trois fenêtres, etc. On lui indiqua ensuite sa place, on lui expliqua les signes maçonniques, on lui donna le mot de passe et on lui permit enfin de s'asseoir. Le vénérable fit la lecture des statues. Elle fut très longue et les sentiments dont Pierre était agité l'empêchèrent de l'écouter avec suite. Il ne se rappela que le dernier paragraphe.
Nous connaissons dans nos temples d'autres degrés que ceux qui séparent la vertu du vice. Crains de faire une différence qui puisse détruire cette égalité. Vole au secours de ton frère, quel qu'il soit. Ramène celui qui s'égare, relève celui qui tombe. Ne nourris jamais aucun sentiment de haine ou d'inimitié contre lui. Sois bienveillant, affable. Allume dans tous les cœurs le feu de la vertu. Partage ton bonheur avec le prochain. Et que l'envie ne vienne jamais troubler cette pure jouissance. Pardonne à ton ennemi et ne te venge de lui qu'en lui rendant le bien pour le mal. En remplissant ses lois suprêmes, tu retrouveras les traces de ta grandeur ancienne et perdue. »
À ces mots, il se leva et embrassa Pierre, qui, les yeux pleins de larmes de joie, ne savait que répondre aux félicitations de tous, aussi bien de ceux qu'il n'avait jamais vus jusque-là que de ceux qui renouvelaient connaissance avec lui. Mais il ne faisait aucune différence entre ses anciens amis et ses nouveaux frères, et n'avait d'autre désir que de se joindre à eux dans l'accomplissement de leur grande œuvre. Le vénérable frappa du maillet, tous s'assirent, et, après leur avoir adressé une exhortation à l'humilité, il leur proposa d'accomplir la dernière cérémonie. Le haut dignitaire, qui portait le titre de frère trésorier, fit le tour de l'assemblée. Pierre aurait voulu s'inscrire sur cette liste pour tout ce qu'il possédait, mais la crainte d'être accusé d'ostentation l'arrêta, et il s'inscrivit pour la même somme que les autres. La séance terminée, il rentra chez lui, et il lui sembla qu'il revenait, complètement transformé, d'un lointain voyage de plusieurs années, et qu'il n'avait plus rien de commun avec sa vie et ses habitudes passées.